Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, deuxième partie, opinions et sentences mêlées. 1. À ceux que la philosophie a déçus. Si jusqu'à présent, vous avez cru à la valeur supérieure de la vie, et si vous vous voyez déçu maintenant, faut-il donc vous débarrasser de la vie au plus vil prix? 2. Être gâté. On peut aussi être gâté pour ce qui concerne la clarté des idées. Combien vous dégoûtent alors les rapports avec ces gens obscurs et nébuleux qui aspirent et qui pressentent? Combien paraît ridicule, sans être réjouissant, leur éternel papier sans qu'ils parviennent véritablement à voler et à attraper quelque chose. 3. Les prétendants de la réalité. Celui qui finit par s'apercevoir combien et combien longtemps il a été dupé embrasse, par dépit, la réalité même la plus laide, en sorte que si l'on considère le monde dans son ensemble, c'est à la réalité que sont échus au cours des siècles les meilleurs prétendants, car ce sont les meilleurs qui ont été dupés le mieux et le plus longtemps. 4. Progrès de la pensée libre. Il n'y a pas de meilleur moyen pour rendre intelligible la différence qu'il y a entre la libre pensée de jadis et la pensée libre d'aujourd'hui que de se souvenir d'un axiome célèbre. Pour l'imaginer et le formuler, il fallut toute l'intrépidité du siècle dernier. Et pourtant, mesuré selon notre expérience d'aujourd'hui, il devient une naïveté involontaire. Je veux parler de l'axiome de Voltaire. Croyez-moi, mon ami, l'erreur aussi a son mérite. 5. Un péché originel des philosophes. Les philosophes se sont emparés de tout temps des axiomes de ceux qui étudient les hommes, moralistes. Ils les ont corrompus en les prenant dans un sens absolu et en voulant démontrer la nécessité de ce que ceux-ci n'avaient considéré que comme indication approximative ou même seulement comme la vérité particulière à une ville ou à un pays pendant une dizaine d'années. Mais par là, les philosophes croyaient s'élever au-dessus des moralistes. C'est ainsi que l'on trouvera, comme base des célèbres doctrines de Schopenhauer concernant la primauté de la volonté sur l'intellect, l'invariabilité du caractère, la négativité de la joie, qui, toutes, tels qu'il les entend, sont des erreurs, des principes de sagesse populaire érigés en vérité par des moralistes. Le mot « volonté » que Schopenhauer transforma pour en faire une désignation commune à plusieurs conditions humaines, l'introduisant dans le langage là où il y avait une lacune, à son grand profit personnel, pour autant qu'il était moraliste. Dès lors, il put parler de la volonté, le mot de la même façon dont Pascal en avait parlé. Le mot « volonté » chez Schopenhauer dégénéra entre les mains de son inventeur, à cause de sa rage philosophique des généralisations, pour le plus grand malheur de la science. Car c'est faire de cette volonté une métaphore poétique que de prétendre attribuer à toutes les choses de la nature une volonté. Enfin, on en a abusé par une fausse objectivation, en vue de l'utiliser à toutes sortes d'excès mystiques, et tous les philosophes à la mode répètent et semblent savoir exactement que toutes choses n'ont qu'une seule volonté et qu'elles sont même cette seule volonté. Ce qui voudrait dire, d'après la description que l'on donne de cette volonté une et universelle, que l'on veut absolument avoir Pour Dieu, le stupide démon. 6. Contre les imaginatifs. L'imaginatif nie la vérité devant lui-même. Le menteur, seulement devant les autres. 7. Inimitié contre la lumière. Si l'on fait comprendre à quelqu'un qu'au sens strict, il ne peut jamais parler de vérité, mais seulement de probabilité et des degrés de la probabilité, on découvre généralement, à la joie non dissimulée de celui que l'on instruit ainsi, combien les hommes préfèrent l'incertitude de l'horizon intellectuel et combien, au fond de leur âme, ils haïssent la vérité à cause de sa précision. Cela tient-il à ce qu'ils craignent tous secrètement que l'on fasse une fois tomber sur eux-mêmes, avec trop d'intensité, la lumière de la vérité? Ils veulent signifier quelque chose, par conséquent, on ne doit pas savoir exactement ce qu'ils sont. Ou bien, n'est-ce que la crainte d'un jour trop clair, auquel leur âme de chauve-souris crépusculaire est facile à éblouir, n'est pas habituée, en sorte qu'il leur faut haïr ce jour. 8. Scepticisme chrétien. On présente maintenant volontiers Pilate, avec sa question « Qu'est-ce que la vérité ?», comme avocat du Christ, et cela pour mettre en suspicion tout ce qui est connu et connaissable, le faire passer pour apparence, afin de pouvoir dresser sur l'horrible fond de l'impossibilité de savoir la croix. 9. La loi de la nature, une superstition. Si vous parlez avec tant d'enthousiasme de la conformité aux lois qui existent dans la nature, il faut que vous admettiez soit que, par une obéissance librement consentie et soumise à elle-même, les choses naturelles suivent leurs lois. En quel cas, vous admirez donc la moralité de la nature. Soit que vous évoquiez l'idée d'un mécanicien créateur qui a fabriqué la pendule la plus ingénieuse en y plaçant, en guise d'ornement, les êtres vivants. La nécessité dans la nature devient plus humaine par l'expression « conformité aux lois ». C'est le dernier refuge de la rêverie mythologique. 10. Échu à l'histoire. Les philosophes voilés et les obscurcisseurs du monde, donc tous les métaphysiciens d'un sel plus ou moins gros, sont pris de douleur aux yeux, aux oreilles ou aux dents lorsqu'ils commencent à soupçonner qu'il y a quelque réalité dans cet axiome affirmant que toute la philosophie est tombée maintenant dans le domaine de l'histoire. On peut leur pardonner à cause de leur chagrin s'ils jettent des pierres et des immondices à celui qui parle ainsi. Mais il se peut que la doctrine elle-même en devienne pour un temps malpropre et insignifiante et perde de son effet. 11. Le pessimiste de l'intellect. L'homme véritablement libre par l'esprit pensera aussi très librement au sujet de l'esprit lui-même et il ne se cachera pas de ce qu'il peut y avoir de grave dans les sources et la direction de celui-ci. C'est pourquoi les autres le considéreront peut-être comme le pire ennemi de la libre pensée et lui appliqueront ce terme de mépris, pessimiste de l'intellect, qui doit mettre en garde contre lui. Habitués comme ils sont à ne point nommer quelqu'un d'après sa force et sa vertu dominante, mais d'après ce qui leur paraît le plus étrange en lui. 12. Besace des métaphysiciens. Il ne faut pas répondre du tout à ceux qui parlent avec tant de fanfaronnade de ce que leur métaphysique a de scientifique. Il suffit de farfouiller dans le paquet qu'ils dissimulent derrière leur dos avec tant de pudeur. Si l'on réussit à le défaire quelque peu, on amènera à la lumière, à leur plus grande honte, le résultat de ce scientifisme. Un tout petit bon Dieu, une aimable immortalité, peut-être un peu de spiritisme, et certainement tout l'amas confus des misères d'un pauvre pécheur et de l'orgueil du pharisien. 13. La connaissance nuisible à l'occasion. L'utilité qu'apporte une recherche absolue de la vérité est sans cesse démontrée au centuple, tellement qu'il faut s'accommoder sans hésiter des choses nuisibles, légères et rares, en somme, dont l'individu peut avoir à souffrir à cause de cette recherche. Il est impossible d'éviter les risques que court le chimiste qui peut se brûler ou s'empoisonner à l'occasion de ses expériences. Ce que l'on peut dire du chimiste s'applique à toute notre civilisation, d'où il résulte clairement, soit dit en passant, combien il importe, pour celle-ci, d'avoir toujours en réserve des baumes pour les blessures et des contrepoisons. 14. Ce dont le Philistin a besoin. Le Philistin croit que ce qui lui est le plus nécessaire, c'est un chiffon de pourpre ou un turban de métaphysique, et il ne veut absolument pas se les laisser arracher. Et pourtant, on le trouverait moins ridicule sans ses oripeaux. 15. Les exaltés. Par tout ce que les exaltés disent en faveur de leur évangile ou de leur maître, ils se défendent eux-mêmes, bien qu'ils aient l'air de s'ériger en juges et non point en accusés. Car involontairement, on leur fait souvenir presque à chaque instant qu'ils sont des exceptions qui ont besoin de se légitimer. 16. Le bien induit à la vie. Toutes les choses bonnes sont de forts stimulants en faveur de la vie. C'est même le cas de tout bon livre écrit contre la vie. 17. Bonheur de l'historien. Lorsque nous entendons parler les métaphysiciens subtils et les hallucinés de l'arrière-monde, nous comprenons, il est vrai, que nous autres, nous sommes les pauvres d'esprit, mais aussi que c'est à nous qu'appartient le royaume du changement, avec le printemps et l'automne, l'hiver et l'été, et que c'est à ceux-ci qu'appartient l'arrière-monde, avec ses brouillards sans fin, ses ombres grises et froides. C'est ce que se prit à dire quelqu'un qui se promenait sous le soleil du matin. Quelqu'un qui, en étudiant l'histoire, sentait se transformer sans cesse, non seulement son esprit, mais encore son cœur, et qui, en opposition avec les métaphysiciens, est heureux d'abriter en lui non pas une âme immortelle, mais beaucoup d'âmes mortelles. 18. Trois espèces de penseurs. Il y a des sources minérales qui jaillissent. Il y en a d'autres qui coulent, et d'autres encore qui ne viennent que goutte par goutte. Dans le même sens, il y a trois espèces de penseurs. Le profane les évalue selon la capacité de l'eau, le connaisseur en examine la teneur et les juge, par conséquent, d'après ce qui, en eux, n'est pas de l'eau. 19. L'image de la vie. Vouloir peindre l'image de la vie, cette tâche, bien que présentée par les poètes et les philosophes, n'en est pas moins insensée. Sous la main des plus grands peintres et penseurs, il ne s'est jamais formé que des images et des esquisses tirées d'une vie, c'est-à-dire de leur propre vie. Et il ne saurait en être autrement. Dans une chose qui est en plein devenir, une autre chose qui devient ne saurait se refléter d'une façon fixe et durable, comme la vie. 20. La vérité ne tolère pas d'autre Dieu. La foi en la vérité commence avec le doute de toutes les vérités en quoi l'on a cru jusqu'à présent. 21. Sur quoi l'on exige le silence? Si l'on parle de la libre pensée comme d'une expédition très dangereuse au milieu des glaciers et des mers polaires, ceux qui ne veulent pas s'engager dans la même voie sont offensés, comme si on leur avait reproché leur hésitation ou leurs jambes trop faibles. Quand nous ne nous sentons pas à la hauteur d'une chose difficile, nous ne tolérons pas qu'elle soit mentionnée devant nous. 22. Historia Inuke. La parodie la plus sérieuse que j'ai jamais entendue est celle-ci. C'était par Dieu, et Dieu divin était le non-sens. 23. Incurable. L'idéaliste est incorrigible. On le jette hors de son ciel, il s'arrange avec l'enfer, un idéal. Créez-lui une déception, et vous verrez qu'il ne met pas moins d'ardeur à embrasser sa déception qu'il n'en mettait, il y a peu de temps, à se draper dans son espérance. Dans la mesure où son penchant appartient au grand penchant incurable de la nature humaine, il peut provoquer des destinées tragiques et devenir, plus tard, l'objet de tragédies. En cela, il touche à ce qu'il y a d'incurable, d'inévitable, d'irrémissible dans la destinée et le caractère humain. 24. Les applaudissements sont une continuation du spectacle. L'air radieux et le sourire bienveillant. C'est la façon d'approbation que l'un donne à la grande comédie du monde et de l'existence. Mais c'est en même temps une comédie dans la comédie. Notre spectateur, ô plaudite amici. 25. Courage de l'ennui. Celui qui n'a pas le courage de permettre que l'on trouve ennuyeux son œuvre et lui-même n'est certainement pas un esprit de premier ordre, que ce soit dans les arts ou dans les sciences. Un esprit moqueur, qui par exception serait aussi un penseur, en jetant un regard sur le monde et l'histoire, pourrait ajouter « Dieu n'a pas ce courage, il a voulu rendre toutes choses intéressantes, et il les a faites ainsi. » 26. De la plus intime expérience du penseur. Rien n'est plus difficile pour un homme que de saisir une chose d'une façon impersonnelle. Je veux dire d'y voir précisément une chose et non pas une personne. On peut même se demander si, d'une façon générale, il lui est possible de suspendre, ne fût-ce que pendant un instant, le mécanisme de son instinct qui crée et imagine des personnes. Dans ses rapports avec les pensées, même les plus abstraites, il se comporte comme si elles étaient des individus avec lesquels on est forcé de lutter ou de prendre parti, des individus que l'on garde, soigne et élève. Écoutons ou guettons-nous nous-mêmes dans la minute où nous entendons ou trouvons un axiome nouveau pour nous. Peut-être nous déplaît-il parce qu'il se présente avec tant de hauteur et d'orgueil. Inconsciemment, Nous nous demandons si nous ne devons pas lui opposer un ennemi, ou bien lui adjoindre un peut-être, ou un parfois. Le petit mot probable nous donne même satisfaction parce qu'il brise la tyrannie personnelle de l'absolu qui nous importune. Lorsque, par contre, cet axiome nouveau nous apparaît sous une forme plus atténuée, tolérant et humble comme il convient, se jetant en quelque sorte dans les bras de la contradiction, nous avançons un autre exemple de notre souveraineté. Car comment saurions-nous ne pas venir en aide à cet être faible, le caresser et le nourrir, lui donner de la force et de la plénitude, et même une apparence de vérité et d'absolu? Nous est-il possible de nous comporter à son égard d'une façon naturelle, chevaleresque ou compatissante? Ailleurs encore, nous voyons d'une part un jugement et d'autre part un autre jugement, éloignés l'un de l'autre, sans qu'ils soient liés et sans qu'ils tendent à se rapprocher. Alors une idée nous chatouille. Nous nous informons s'il n'y aurait pas un mariage à faire, une conclusion à tirer. Nous avons le sentiment vague qu'au cas où cette conclusion aurait une suite, l'honneur en reviendrait non seulement aux deux jugements unis par le mariage, mais encore à l'auteur de ce mariage. Si, par contre, on ne peut s'attaquer à cette idée ni par l'entêtement et le mauvais vouloir, ni par la bienveillance, si on la tient pour vraie, on s'y soumet et on lui rend hommage comme à un guide et un chef. On lui accorde une place d'honneur et on n'en parle pas sans pompe et fierté, car son éclat jaillit sur vous. Malheur à celui qui voudrait l'obscurcir. Mais il arrive aussi que cette autorité devienne un jour scabreuse pour nous. Alors, nous qui sommes des infatigables faiseurs de rois, kingmakers, dans le domaine de l'esprit, nous chassons du trône l'idée élue et y élevons en hâte son adversaire. Considérez cela et faites un pas de plus dans votre pensée. Certes, personne ne parlera plus d'un besoin de connaissance en soi. Pourquoi donc l'homme préfère-t-il le vrai au non-vrai, dans cette lutte secrète avec les idées personnes, dans ce mariage des idées, mariage demeuré le plus souvent caché, dans cette fondation d'État sur le domaine de la pensée, dans cette éducation et cette assistance de la pensée? Pour la même raison qui lui fait rendre justice dans ses rapports avec des personnes véritables, maintenant par habitude, héritage et éducation, primitivement parce que le vrai, comme aussi l'équitable et le juste, est plus utile et rapporte plus d'honneur que le non-vrai. Car dans le domaine de la pensée, il est difficile de maintenir la puissance et la réputation lorsque celle-ci s'édifie sur l'erreur et le mensonge. Le sentiment qu'un pareil édifice pourrait s'effondrer une fois est humiliant pour la conscience de son architecte. L'architecte a honte de la fragilité de son matériel, et parce qu'il se considère lui-même comme plus important que le reste du monde, il ne voudrait rien exécuter qui ne fût plus durable que le reste du monde. Dans son désir de la vérité, il embrasse la foi en l'immortalité personnelle, c'est-à-dire la pensée la plus orgueilleuse et la plus altière qu'il y ait, car elle est intimement liée à l'arrière-pensée « Pereat mundus, dum ego salvus sim ». Son œuvre est devenue pour lui son ego. Il se transforme lui-même en une chose impérissable qui affronte toute autre chose. C'est sa fierté incommensurable qui ne veut se servir pour son œuvre que que des pierres les meilleures et les plus dures, donc de vérité, ou de ce qu'il tient pour tel. À bon droit, on a de tout temps appelé l'orgueil le vice de ceux qui savent. Mais la vérité et son prestige seraient en mauvaise posture sur la terre sans ce vice fécond. C'est dans le fait que nous craignons nos propres idées, nos propres paroles, mais aussi que nous nous y vénérons nous-mêmes, leur attribuant involontairement la faculté de pouvoir nous récompenser, nous mépriser, nous louer et nous blâmer, donc dans le fait que nous sommes en relation avec elles, comme avec des personnes libres et intellectuelles, des puissances indépendantes, d'égal à égal. C'est dans ce fait que le singulier phénomène que j'ai appelé conscience intellectuelle a ses racines. C'est donc encore une chose morale, d'un ordre supérieur, qui est sortie d'une racine vulgaire. 27. Les obscurantistes. L'essentiel, dans la magie noire des obscurantistes, ce n'est pas qu'elle veut troubler les cerveaux, mais qu'elle tente à noircir l'image du monde et à obscurcir notre idée de l'existence. Il est vrai que pour arriver à cette fin, l'obscurantisme s'applique souvent à empêcher l'émancipation des esprits. Mais dans certains cas, il use précisément du moyen opposé et cherche, par l'extrême affinement de l'intelligence, à engendrer la satiété. Les métaphysiciens subtils qui préparent le scepticisme et qui, par leur extrême sagacité, invitent à la méfiance envers la sagacité, sont d'excellents instruments d'un obscurantisme plus raffiné. Est-il possible de pouvoir faire servir à cette fin Kant lui-même? Je dirais plus, est-il possible que, d'après sa propre déclaration, demeurée tristement fameuse, il ait voulu, lui-même, quelque chose de semblable, du moins d'une façon passagère, ouvrir une route à la fois en assignant ses limites à la science. Il est vrai qu'il n'y a pas réussi, lui pas plus que ses successeurs dans les sentiers de loup et de renard, de cet obscurantisme très raffiné et très dangereux. C'est même le plus dangereux de tous, car la magie noire apparaît ici avec une auréole de lumière. 28. Quelle espèce de philosophe fait périr l'art? Si les brumes d'une philosophie métaphysico-mystique réussissent à rendre opaques tous les phénomènes esthétiques, il s'ensuit qu'il est impossible d'évaluer ces phénomènes en les jugeant les uns par les autres, car chacun séparément est inexplicable. Mais s'il n'est plus possible de comparer pour aboutir à une estimation, il finit par en résulter une absence complète de critique, un aveugle laissé aller. Il en résulte de plus un affaiblissement continuel de la jouissance que procure l'art. Cette jouissance qui ne se distingue de la brutale satisfaction d'un besoin que par un goût raffiné à l'extrême et un sens aigu de la nuance. Mais plus la jouissance diminuera, plus se transformera le désir de l'art pour s'abaisser de nouveau à un simple appétit, à quoi l'artiste cherche dès lors à subvenir par une nourriture toujours plus grossière. 29. À Gethsemane. Ce qu'un penseur peut dire de plus douloureux à un artiste, c'est « Ne pouvez-vous pas veiller pendant une heure avec moi ?» 30. Au métier à tisser. Il y a un petit nombre de gens qui prennent plaisir à débrouiller le tissu des choses et à défaire les mailles. Mais un grand nombre travaille à l'encontre de cette tâche. Par exemple, tous les artistes et les femmes. Ils s'appliquent à refaire les nœuds à l'infini et à embrouiller les fils de telle sorte que les choses comprises deviennent incompréhensibles. Quoi qu'il advienne, les mailles et les tissus auront toujours l'air un peu malpropres parce que trop de mains y travaillent et arrachent les fils. 31. Dans le désert de la science. À l'homme scientifique apparaissent, durant ces marches humbles et pénibles, qui sont hélas fort souvent des marches à travers le désert, ces merveilleux mirages. Scientifique, en sorte qu'il va presque involontairement toujours de l'avant. Il est vrai que certaines natures s'arrêtent comme étourdies par le beau mirage. Alors le désert les engloutit et elles sont mortes pour la science. D'autres natures encore, celles qui ont souvent fait l'expérience de ces consolations subjectives, sont prises d'un extrême découragement et maudissent le goût de sel que ces apparitions laissent à la bouche et d'où il résulte une soif ardente, sans que seulement un pas vous rapproche d'une source quelconque. 32. La prétendue vérité vraie. Le poète fait semblant de connaître à fond les différentes professions, comme par exemple celle de général, de tisserand, de marin et toutes les choses qui les concernent. Il se comporte comme s'il savait. En expliquant les destinées et les actes humains, il a l'air d'avoir été présent lorsque fut tissée la trame du monde. En ce sens, c'est un imposteur. Il accomplit ses duperies devant des ignorants. C'est pourquoi elles lui réussissent. Ceux-ci le louent de son savoir réel et profond et l'induisent enfin à croire qu'il connaît véritablement les choses aussi bien que les spécialistes qui les connaissent et les exécutent et même aussi bien que la grande araignée du monde. L'imposteur finit donc par être de bonne foi et par croire en sa véracité. Les hommes sensibles vont même jusqu'à lui dire en plein visage qu'il possède la vérité et la véridicité supérieure, car il arrive parfois à ceux-ci d'être momentanément fatigués de la réalité. Ils prennent alors le rêve poétique pour un relais bienfaisant, une nuit de repos, salutaire au cerveau et au cœur. Ce que le poète voit en rêve leur paraît maintenant d'une valeur supérieure parce que, comme je l'ai dit, ils en éprouvent un sentiment bienfaisant. Et toujours, les hommes ont cru que ce qui semblait être plus précieux était ce qu'il y avait de plus vrai, de plus réel. Les poètes qui ont conscience de ce pouvoir, à eux propres, s'appliquent avec intention à calomnier ce qu'on appelle généralement réalité et à lui donner le caractère de l'incertitude, de l'apparence, de l'inauthenticité, de ce qui s'égare dans le péché, la douleur et l'illusion. Ils utilisent tous les doutes au sujet des limites de la connaissance, tous les excès du scepticisme, pour draper autour des choses le voile de l'incertitude, afin que, après qu'ils ont accompli cet obscurcissement, l'on interprète sans hésitation leurs tours de magie et leurs évocations comme la voix de la vérité vraie, de la réalité réelle. 33. Vouloir être juste et vouloir être juge. Schopenhauer, dont la grande expérience dans les choses humaines est trop humaine, dont le sens instinctif des faits ont été plus ou moins entravés par la peau de léopard de sa métaphysique, cette peau qu'il faut d'abord lui enlever pour découvrir en dessous un véritable génie de moraliste, Schopenhauer, dis-je, fait cette excellente distinction qui lui donnera raison bien plus qu'il n'osait se l'avouer à lui-même. La connaissance de la sévère nécessité des actes humains est la ligne qui sépare les cerveaux philosophiques des autres. Il entrava lui-même cette compréhension profonde qu'il s'ouvrit une fois par ce préjugé commun aux hommes moraux, non point aux moralistes, et qu'il exprime ainsi sur un ton candide et fervent. L'éclaircissement ultime et véritable sur le sens intime de l'ensemble des choses est nécessairement en étroite corrélation avec la signification éthique des actes humains. Cette nécessité ne saute nullement aux yeux. Bien au contraire, elle est réfutée par cet axiome de la sévère nécessité des actions humaines, c'est-à-dire de l'absolue contrainte et irresponsabilité de la volonté. Les cerveaux philosophiques se distingueront donc des autres par leur incrédulité pour ce qui en est de la signification métaphysique de la morale. Et cela créerait un gouffre profond et infranchissable qui ne ressemblerait en rien à celui qui sépare les gens instruits des ignorants et dont on se plaint tant de nos jours. Il est vrai qu'il faudra que l'on reconnaisse encore pour inutile maintes portes de sortie, que se sont ménagées à eux-mêmes des cerveaux philosophiques comme Schopenhauer. Aucune de ces portes ne mène au grand air, dans l'atmosphère du libre arbitre. Chacune de celles par où l'on s'est échappé jusqu'à présent s'ouvre sur un espace fermé, le mur d'airain de la fatalité. Nous sommes en prison. Nous ne pouvons que nous rêver libres et non point nous rendre libres. On ne pourra plus résister longtemps à cette certitude. Les attitudes désespérées et incroyables de ceux qui l'attaquent et font de vaines contorsions pour continuer la lutte le démontrent. Voilà à peu près ce qui se passe maintenant dans leur esprit. Personne ne serait responsable? Et partout où il y a le péché et le sentiment du péché? Mais il faut bien que quelqu'un soit le pécheur. S'il est impossible et s'il n'est plus permis d'accuser et de juger l'individu, cette pauvre vague dans le flot nécessaire du devenir, eh bien, que ce soit le flot lui-même, le devenir, que l'on considère comme coupable. Car là, il y a le libre arbitre. Là, on peut accuser, condamner, expier et faire pénitence. Que ce soit donc Dieu, le pécheur, et l'homme, son sauveur. Que l'histoire soit à la fois culpabilité, condamnation et suicide. Que le malfaiteur devienne son propre bourreau. Ce christianisme placé la tête à l'envers, que serait-ce si ce n'était cela? Est la dernière reprise dans la lutte de la doctrine de la moralité absolue avec celle de la contrainte absolue. Et ce serait là une chose épouvantable si c'était autre chose qu'une grimace logique, le geste horrible d'une idée qui succombe. Peut-être le spasme d'agonie du cœur désespéré, avide de salut, à qui la folie murmure « Voici, tu es l'agneau qui porte les péchés de Dieu. » Il y a une erreur non seulement dans le sentiment « je suis responsable », mais encore dans cette opposition « je ne le suis pas, mais il faut pourtant que ce soit quelqu'un ». Mais c'est cela qui n'est pas vrai. Il faut donc que le philosophe dise, comme le Christ, « ne jugez point ». Et la dernière distinction entre les cerveaux philosophiques et les autres, ce serait que les premiers veulent être justes, tandis que les seconds veulent être juges. 34. Sacrifice. Vous considérez le sacrifice comme le signe distinctif de l'action morale? Réfléchissez donc s'il n'y a pas un côté de sacrifice dans chaque acte effectué d'une façon réfléchie, qu'il soit bon ou mauvais. 35. Contre les inquisiteurs de la morale. Il faut savoir tout ce dont un homme est capable, en bien et en mal, dans l'idée qu'il se fait des choses et dans leur exécution, pour pouvoir apprécier le développement et l'aboutissant de sa nature morale. Mais connaître cela est impossible. 36. Dents de serpent. Nous ne savons pas si nous avons une dent de serpent avant que quelqu'un ait placé son talon sur nous. Une femme ou une mère dirait « Avant que quelqu'un ait placé son talon sur ce qui nous est cher, sur notre enfant. » Notre caractère est déterminé plus encore par l'absence de certains événements que par ce que l'on a vécu. 37. La duperie en amour. On oublie volontairement certaines choses de son passé. On se les sort de la tête avec intention. On a donc le désir de voir l'image qui reflète notre passé, nous mentir à nous-mêmes et nous flatter. Nous travaillons sans cesse à cette duperie de nous-mêmes. Et vous pensez, vous qui parlez tant de l'oubli de soi en amour, de l'abandon du moi à une autre personne, vous qui vous vantez de tout cela, vous pensez que c'est là quelque chose d'essentiellement différent? On détruit donc le miroir, on se transforme par l'imagination en une autre personne que l'on admire, et l'on jouit dès lors de la nouvelle image de son moi, bien qu'on la désigne sous le nom d'une autre personne. Et tout ce processus ne serait pas de la duperie de soi, de l'égoïsme? Vous m'étonnez. Il me semble que ceux qui se cachent quelque chose devant eux-mêmes et ceux qui, dans leur ensemble, se cachent devant eux-mêmes se ressemblent en cela qu'ils commettent un vol au trésor de la connaissance. D'où il faut induire de quel méfait l'axiome « connais-toi toi-même » met en garde. 38. À celui qui nie sa vanité. Celui qui nie chez lui-même la vanité la possède généralement sous une forme si brutale qu'il clôt instinctivement les yeux devant elle pour ne pas être forcé de se mépriser. 39. Pourquoi les gens bêtes deviennent si souvent méchants? Aux objections de notre adversaire, contre lesquelles notre cerveau se sent trop faible, notre cœur répond en mettant en suspicion les motifs de ces objections. 40. L'art des exceptions morales. Il ne faut pas trop souvent prêter l'oreille à un art qui montre et glorifie les cas exceptionnels de la morale. Cela même où le bon devient méchant et l'injuste juste. de même que l'on achète bien, de temps en temps, quelque chose à un bohémien, mais avec la crainte que, dans son marché, il ne vole plus qu'il ne gagne. 41. L'absorption et la non-absorption des poisons. Le seul argument définitif qui, de tout temps, ait empêché les hommes d'absorber un poison, ce n'est pas la crainte de la mort qu'il pourrait occasionner, mais son mauvais goût. 42. Le monde privé du sentiment du péché. Si l'on n'exécutait que les actions qui n'engendrent pas la mauvaise conscience, le monde humain serait encore assez laid et fourbe. Mais il serait moins maladif et pitoyable qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y eut de tout temps assez d'hommes méchants sans conscience, mais il y eut aussi beaucoup de braves et bonnes gens à qui manquait le sentiment de joie que procure la bonne conscience. 43. Les consciencieux. Il est plus commode d'obéir à sa conscience qu'à sa raison, car à chaque insuccès, la conscience trouve en elle-même une excuse et un encouragement. C'est pourquoi il y a encore tant de gens consciencieux et si peu de gens raisonnables. 44. Moyens opposés pour éviter l'amertume. Pour certains tempéraments, il est utile de pouvoir exprimer son dépit par des paroles. Les discours l'assagissent. Un autre tempérament n'atteint toute son amertume qu'en voulant l'exprimer. Pour lui, il sera plus salutaire de rentrer l'expression de sa colère. La contrainte que s'imposent les hommes de cette espèce devant leurs ennemis ou leurs supérieurs adoucit leur caractère et empêche celui-ci de devenir cassant ou amer. 45. Ne pas prendre trop à cœur. Il est désagréable de se meurtrir à force de rester couché. Mais ce n'est pas encore une preuve contre l'efficacité du traitement qui vous déterminera à vous mettre au lit. Les hommes qui ont longtemps vécu en dehors et qui se sont enfin tournés vers la vie intérieure et l'isolement philosophique savent qu'il y a aussi une façon de se meurtrir l'esprit et le sentiment à force de les coucher dans le même cercle. Ce n'est donc pas là un argument contre l'ensemble du genre de vie que l'on a choisi, mais cela exige de petites exceptions et des récidives apparentes. 46. L'humaine chose en soi. La chose la plus vulnérable et pourtant la plus invincible, c'est la vanité humaine. Sa force grandit même par la blessure et peut finir par devenir gigantesque. 47. Ce qu'il y a de comique chez beaucoup de gens laborieux. Par un surcroît d'efforts, ils arrivent à se conquérir des loisirs. Et lorsqu'ils sont arrivés à leur fin, ils ne savent rien en faire, sinon de compter les heures jusqu'à ce que le temps soit passé. 48. Avoir beaucoup de joie. Celui qui a beaucoup de joie doit être un homme bon. Mais peut-être n'est-il pas le plus intelligent, bien qu'il atteigne ce à quoi le plus intelligent aspire de toute son intelligence. 49. Dans le miroir de la nature. Ne connaît-on pas assez exactement le caractère d'un homme lorsque l'on entend qu'il aime à se promener parmi les grands blés blonds, qu'il préfère à tout qu'il se sent très à l'aise sous les grands noyers au gras feuillage, comme si c'était là ses proches parents, que c'est sa grande joie d'être dans les montagnes, de rencontrer ces petits lacs écartés, d'où la solitude elle-même semble lui jeter un regard, qu'il aime cette grise tranquillité d'un crépuscule de brume, se glissant au soir d'automne et de printemps, jusque sous les fenêtres, comme pour isoler, avec des rideaux de velours, de toute espèce de bruit insolite, qu'il considère toute roche brute comme un témoin du passé, avide de parler, vénérable pour lui dès son enfance. Et qu'enfin, la mer, avec sa mouvante peau de serpent et sa beauté de fauve, lui est toujours demeurée et lui demeurera toujours étrangère. En effet, par là, quelque chose de la caractéristique de cet homme est donné. Mais le reflet de la nature ne dit pas que ce même homme, avec tous ses sentiments idylliques, et je ne dis pas malgré eux, pourrait fort bien être peu charitable, parcimonieux et présomptueux. Horace, qui s'entendait à pareille chose, a placé le sentiment le plus tendre pour la vie de campagne dans la bouche et dans l'âme d'un usurier romain, avec le célèbre « Beatus ille qui procul negotiis ». 50. Puissance sans victoire. La conviction la plus forte, celle de l'absolue non-liberté de la volonté humaine, est pourtant celle qui aboutit aux résultats les plus pauvres, car elle a toujours eu l'adversaire le plus fort, la vanité humaine.